Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quand on évoque la migraine, on pense douleurs intenses et besoin de s'isoler, de se couper du bruit, parfois même de la lumière, pour éviter que les symptômes n'empirent. La migraine, une maladie neurologique qui peut donc se révéler très invalidante, contraindre à l'isolement et à la mise entre parenthèses de certaines activités lorsque les traitements pris ne parviennent pas à soulager les crises. Écouter les migraineux décrire leur maladie, c'est souvent entendre le récit de l'errance et aussi de l'espoir d'enfin être soulagé après des années de souffrance et parfois d'incompréhension. Une affection dont les caractéristiques, alors que son nom est passé dans le langage courant, ne sont pas forcément connues du grand public. La migraine, parfois méconnue, y compris même par une partie des patients qui en souffrent de longue date, sans que le bon diagnostic n'ait été posé. La migraine, prévention, diagnostic, traitement et bien sûr les différents symptômes. Nous vous donnons la parole dans Priorité Santé, nos invités en direct, pour répondre à toutes vos questions qui ont été posées sur la page Facebook de l'émission. Quelle prise en charge pour ne pas se laisser gâcher la vie par la migraine? Deux spécialistes avec nous au téléphone en ligne de Guinée. On vous retrouve, professeur Faudé Cissé, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes neurologue, maître de conférences agrégé, chef de service de neurologie au sein de l'hôpital national Ignace Dine à Conakry et au Cameroun. Pour nous répondre, professeur Yacouba Mapouré, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes également neurologue, un chef de service de médecine interne, chef de l'unité de neurologie à l'hôpital général de Douala. Vous êtes également professeur Mapouré, chef de département de sciences cliniques à la fac de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala.
Priorité santé sur RFI.
Le Cameroun, la Guinée. Pour commencer, une forme d'état des lieux de cette migraine, peut-être dans chacun de vos pays. D'abord avec vous, professeur Yacouba Mapouré. Est-ce que vous avez des chiffres pour cerner l'importance de cette maladie au sein de la population camerounaise? Et peut-être sur quel type de données est-ce qu'on peut s'appuyer pour évaluer la fréquence de cette maladie neurologique?
Merci beaucoup. La migraine, c'est une affection qui est bien fréquente au Cameroun et actuellement, il n'existe pas de données communautaires, c'est-à-dire si des données récoltées au niveau des populations. Par contre, nous disposons des données hospitalières qui montrent, par exemple, dans un service spécialisé, c'est-à-dire le service de neurologie, que le principal motif de consultation, c'est bien évidemment la céphalée, c'est-à-dire les maux de tête. Et dans ce groupe de maux de tête, il s'agit bien évidemment dans la plupart des cas de la migraine. Et dans une étude, une évaluation sur près de 700 patients venus consulter pour ces maux de tête, nous nous étions rendus compte que la migraine pouvait être retrouvée chez 20 à 25% des patients. Ça, c'est la première donnée qui est issus de l'hôpital. Par contre, dans le cadre de la recherche, nous sommes allés au niveau de l'université et nous avons essayé d'examiner des étudiants dans plusieurs facultés, faculté de médecine, polytechnique de Douala, faculté de sciences juridiques, faculté de sciences économiques et de gestion, dont environ 6 000 étudiants, et évidemment, on s'est rendu compte que 75% des patients avaient des céphalées, et dans ce groupe de patients qui avaient des céphalées, on pouvait avoir jusqu'à 30% qui souffraient de migraines.
Alors voilà, justement, avec ces deux définitions, ces deux noms de maladies, céphalées et migraines, on va bien faire la distinction tout à l'heure. Je voudrais qu'on se tourne maintenant vers la situation en Guinée avec vous, professeur Faudé Cissé. Même chose, difficile d'avoir des chiffres au niveau national ou communautaire. Et là encore, on s'arrête sur l'établissement hospitalier au sein duquel vous exercez. Vous avez quoi comme données au sein de votre centre de soins?
Bon, à Ignace Dine, les données sont un peu différentes de celles déjà rapportées. C'est vrai que chez nous, en neurologie, les céphalées représentent le quatrième motif de consultation. Et en ayant fait l'inventaire des types de céphalées, parce qu'il y en a beaucoup, autour de 240. La migraine sort bien sûr comme étant le premier, en fait, le premier type de céphalée. Lorsqu'on a fait une étude aux urgences de l'hôpital Ignace Dine, sur 110 patients céphalalgiques, la moitié de ces patients avaient des migraines. Donc nous sommes tous d'accord que la migraine est le type de céphalée le plus fréquent, mais les données sont variables en fonction de l'endroit où l'étude est effectuée. Donc lorsque c'est en consultation avec un de neurologie chez nous, comme je l'ai dit, c'est le premier type de céphalée, mais les céphalées, c'est le quatrième type de consultation. Lorsque c'est fait aux urgences, voilà, la fréquence augmente parce que voilà, c'est tous les patients qui y arrivent. Maintenant, en Guinée, nous n'avons pas fait d'études épidémiologiques en population. Nous n'avons pas été voir les étudiants. Je pense que cela nécessite voilà, un accompagnement des structures, on va dire, des structures d'épidémiologie étatiques pour avoir un financement, faire des enquêtes de terrain pour avoir des chiffres beaucoup plus fiables.
Et pour avoir des chiffres beaucoup plus étendus, deux neurologues en tout cas invités aujourd'hui dans notre émission, professeur Faudé-Cissé, mais on peut tout à fait imaginer que pour la plupart des patients concernés par des maux de tête, par la migraine, eh bien on ne va pas voir un neurologue, on va peut-être voir un autre médecin ou un autre recours médical. En général, les patients, dans un premier temps, s'adressent à qui ?
Ils s'adressent aux généralistes ou aux urgentistes. Ça dépend de l'intensité de la céphalée. Si c'est une céphalée qui est légère à modérée, donc le patient ira volontiers voir un généraliste. Si c'est une céphalée qui sort du lot, qui parfois est décrite comme étant la pire céphalée de la vie du patient, ben il se rend aux urgences, parce que ce genre de céphalée peut être révélatrice de pathologies graves. Donc il est important de faire l'état des lieux.
Alors un généraliste, peut-être aussi dans certains cas, le recours le plus proche de chez soi. Est-ce que ça veut dire qu'on va aussi voir le tradi praticien, quand on a vraiment mal à la tête ?
Oui, naturellement, les tradi praticiens joue un rôle capital dans le système sanitaire guinéen à cause du désert médical qui existe, à cause de l'absence de sécurité sociale permettant un accès équitable aux soins. Donc effectivement, quand vous avez des maux de tête dans un village éloigné, la culture veut qu'on aille voir les tradipraticiens.
Alors, identifier la maladie, professeur Yacouba Mapouré, on a parlé justement de la distinction entre céphalée, des maux de tête, on va dire classiques, et cette fameuse migraine. Pour bien identifier les deux, il y a un terme qui revient, on parle de douleur pulsatile. De quoi s'agit-il ?
Merci. Voilà, pour qu'on restitue les choses clairement pour les gens qui nous écoutent. Disons que la céphalée, c'est tout, regroupe l'ensemble des douleurs de la tête, du crâne. Et dans ce groupe, il y en a une classification qui permet de distinguer deux types de céphalées. Ce que nous appelons les céphalées primaires. Primaires parce qu'en réalité, elles ne peuvent pas porter atteinte à la vie du patient, donc ne peut pas tuer le patient, mais peut l'empêcher de fonctionner. Et dans ce groupe, le chef de file s'appelle bien évidemment la migraine. Et nous, le deuxième groupe de céphalées, c'est ce que nous appelons les céphalées secondaires, c'est-à-dire en dessous, il y a quelque chose qui entraîne le mal de tête. Ça peut être une tumeur, ça peut être une infection du système nerveux, ça peut être un trouble, ça peut être n'importe quoi dans le crâne et qui peut entraîner les maux de tête.
Donc c'est un signal d'alerte vraiment pour une prise en charge plus lourde dans ce cas-là.
Bien évidemment, c'est exactement cela le piège dans la migraine. Lorsqu'on reçoit un patient pour la migraine, il faudrait bien faire attention, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres symptômes que les symptômes classiques que nous connaissons de la migraine. Et l'un de ces symptômes classiques, c'est le caractère pulsatile que vous avez évoqué tout à l'heure. La pulsatilité associée à la durée de la céphalée, associée à des signes tels que une hypersensibilité au soleil ou bien à la lumière, une hypersensibilité au bruit et le caractère unilatéral de la douleur font qu'on peut évoquer la migraine. Mais toutefois, j'insiste encore, la présence des signes comme la fièvre, certaines manifestations neurologiques devraient faire examiner, réévaluer le patient avant de retenir ce genre de diagnostic.
Avoir l'impression d'avoir le cœur qui bat au niveau des tempes ou d'une tempe sur la moitié de la tête. Professeur Yacouba Mapouré, la fréquence de la maladie, on a donné des données globales tout à l'heure, mais quand on regarde les chiffres, y compris au niveau international, il y a quelque chose de particulier avec la migraine, c'est que les femmes sont vraiment davantage concernées.
Effectivement, Effectivement, la glande féminine est plus touchée, concernée par la migraine que la glande masculine. Et nous, on s'est intéressé à savoir pourquoi il y avait cette différence. Évidemment, on s'est rendu compte que les hormones femelles, notamment les œstrogènes, avaient un rôle prépondérant dans le déclenchement de la crise de migraine. Et d'ailleurs, on sait également qu'il y a des migraines qui s'accompagnent chez certaines femmes uniquement pendant leur période de règles. Mmh. On sait également que pendant les grossesses, par exemple, les femmes migraineuses ont tendance à ne plus faire de crise, mmh, et dès qu'elles vont accoucher, avec le pic hormonal, ils vont recommencer à faire leur crise. Donc c'est de là qu'on comprend bien évidemment que les hormones femelles jouent un rôle dans le déclenchement de la crise de migraine.
Vous restez avec nous, professeur Yacouba Mapouré, professeur Faudé-Cissé. On va revenir sur ces symptômes, bien sûr sur la prise en charge, avec les différentes questions de nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Des auditeurs en direct et d'autres qui nous ont laissé leur message sur le répondeur de Priorité Santé. C'est le cas d'Arnaud. Il est en ligne du Tchad. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Caroline, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Je suis Yampounder Kanzogo Arnaud. Je vous appelle de N'Djamena au Tchad. En effet, je souffre de la migraine depuis l'âge de 15 ans, en 2006 précisément. En effet, lorsque la migraine veut commencer avec moi, c'est souvent sur le reflet de la lumière. Quand je vois quelque chose qui brille au soleil ou lorsque je vois une lumière trop blanche la nuit, cela me perturbe et déclenche ma migraine. Après le reflet de la lumière, je commence à avoir des vertiges, puis je vois des petites lumières qui brillent et qui se déplacent. Ensuite, j'ai la sensation du chaud et du froid. Par la suite, j'ai la nausée, puis j'ai très mal aux orbites des yeux et j'ai en même temps faim. Après cela, le mal de tête très intense commence d'un côté pour se généraliser par la suite. Je me suis fait consulter par plusieurs médecins. Dans un premier temps, on a pensé que j'avais un problème de vue du fait que je suis sensible à la lumière, ce qui m'a amené à faire des examens ophtalmologiques. Mais les résultats de ces examens se contredisent. On m'a prescrit des verres correcteurs anti-reflets avec degré plus 0,75 des deux côtés. Mais j'ai fini par abandonner ces verres puisqu'ils me créaient d'autres maux de tête lorsque je les porte à longueur de journée. Et aussi cela réduisait ma vue à distance. Un autre problème aussi que j'ai constaté avec ma migraine est qu'elle semble cyclique. Chaque année, je ressens cela au mois de juin, en plus d'autres périodes qui peuvent varier. Alors mes questions sont les suivantes. Est-ce que le fait que je travaille tous les jours devant un ordinateur pourrait être la cause ou avoir un impact sur ma migraine? Puisque je suis un statisticien et je travaille avec l'ordinateur tous les jours. La deuxième question est de savoir est-ce qu'il existe des traitements pour les migraines? Et si oui, lesquels? Merci.
Alors, question de cet auditeur qui décrit avec beaucoup de détails ce dont il souffre. Question sur l'usage des écrans. Cette dernière question, on vous retrouve toujours en ligne de Guinée, professeur Faudé-Cissé. Est-ce que vous pouvez répondre à Arnaud sur ce point précis? Écrans et migraines font mauvais ménage?
Naturellement. Merci pour la question. Effectivement, il a été décrit par plusieurs auteurs que la fatigue visuelle peut être un facteur déclenchant de ces maux de tête. Mais dans la description sémiologique qu'il a donnée, je pense qu'il a aussi, en plus de cette fatigue visuelle, des auras visuelles. Donc ce sont ces troubles visuels avec l'impression de voir de la lumière qui scintille devant soi avant d'avoir la douleur périorbitaire et avoir des maux de tête. Donc il a deux choses différentes à mon avis, c'est qu'il a des auras visuelles, donc ce sont des signes précurseurs de la migraine. Et derrière, il faut retenir que effectivement la fatigue visuelle est un facteur déclenchant de ces migraines-là.
Arnaud demande quels traitements peuvent être utiles. Bien évidemment, on ne va pas faire une consultation en donnant des noms de médicaments à l'antenne parce que ça n'a pas de sens et ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Professeur Yacouba Mapouré, en tout cas, il y a une question de l'auditeur qui est très importante. Il a beaucoup parlé de ses problèmes de vision. On lui a même conseillé de porter des lunettes. C'est fréquent qu'il y ait une forme de confusion entre migraine et problème de vue?
Ça, c'est très important. Alors, j'ai souligné tout à l'heure cette étude que nous avons réalisée à Douala au Cameroun et qui portait sur 700 patients consécutifs qui étaient venus consulter pour les maux de tête. Et on s'était rendu évidemment compte que 60% de ces patients qui venaient en neurologie consulter pour leurs problèmes de maux de tête étaient passés dans une consultation antérieure. Et où étaient-ils passés? Premièrement, en ophtalmologie, Deuxièmement, en otorhinolaryngologie, en ORL, parce que les gens, alors, du fait que la vue peut être intéressée au cours d'une crise de migraine, ils pensaient plus à un problème ophtalmologique. Et évidemment, il n'était pas rare de constater que beaucoup de ces patients étaient avaient eu des prescriptions des verres, lesquels verres ne les avaient pas beaucoup améliorés, et c'était la raison pour laquelle ils étaient revenus en neurologie. Et donc, de plus en plus, nous pensons que ces patients qui ont des céphalées violentes, même s'il y a des problèmes d'yeux, il est toujours préférable de demander, même si on va chez l'ophtalmologue, demander un avis neurologique pour pouvoir éviter de traîner dans la prise en charge et le diagnostic. Voilà.
Alors, d'autres questions tout de suite. On va retrouver cette fois les auditeurs et auditrices en direct pour échanger avec nous.
RFI à Kaolack, 91.5 FM.
Et on vous donne tout de suite la parole. Mati, bonjour.
Bonjour.
Mati, en ligne de Kaolack, au Sénégal. Oui, on vous écoute. Vous souffrez de migraines. Racontez-nous comment ça se passe pour vous.
Oui, moi, j'ai toujours eu des migraines depuis que je suis petite. Mais je pensais que c'était dû aux allergies que je faisais parce que j'étais tout le temps enrhumée. Bon, il s'est trouvé qu'il y a 7 ans, j'ai déménagé. Je vis maintenant à Kaolack. Mais j'ai eu des... Ici, en venant à Kaolack, j'ai remarqué que j'avais plus de crises de migraines et c'était de plus en plus intense jusqu'à avoir des nausées, des vomissements. Après, j'ai allé en consultation chez le médecin généraliste. J'ai commencé des traitements et j'avais remarqué que les analgésiques simplement ne pouvaient pas calmer la douleur. Et j'ai commencé à prendre des anti-inflammatoires, ibuprofène, ainsi de suite. Ce n'est que récemment que j'ai allé voir un neurologue. On a eu à faire des scanners. Mais la remarque que j'ai eue, c'était dû par rapport au climat. Parce qu'à Kaolack, il fait excessivement chaud. Et si je suis, sous le soleil, ou bien une longue exposition au soleil avec la chaleur, j'avais des migraines et c'est de plus en plus intense.
C'est ce qu'évoquait tout à l'heure aussi Arnaud, un autre auditeur, le rapport entre le climat, par exemple des poussées de chaleur et l'arrivée de ces migraines. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prise en charge et comment? Et comment est-ce que vous sentez justement avec ce traitement?
Oui, j'ai commencé le traitement il y a à peu près 2 mois. En même temps aussi, le neurologue m'a conseillé d'aller voir l'ORL pour continuer le traitement avec les allergies que j'ai fait. Mais ça fait 2 mois, j'ai vu, franchement, j'ai vu que ça commence à diminuer. Je commence maintenant à pouvoir, les crises commencent à, franchement, comment l'expliquer?
À s'espacer, à être moins intense?
Moins intense, pardon, oui.
Mathieu, est-ce que vous avez des questions à poser aux professeurs Fodé Cissé et Yacouba Mapouré qui sont à l'écoute?
La question, c'est est-ce que cette longue exposition aux chaleurs peut déclencher, c'est ce qui déclenche l'intensité des crises que j'ai?
Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient, professeur Fodé Cissé, cette question de Mathieu sur le lien entre chaleur, climat et crise de migraine.
Oui, dans les explications, dans les fondements scientifiques de l'origine de la migraine, le rôle des facteurs environnementaux est très bien établi et surtout les modifications brusques de la température, c'est-à-dire le fait de passer d'une température, on va dire, plus ou moins humide à des fortes chaleurs, aggrave ces maux de tête, déclenche ces maux de tête et est lié à l'intensité de ces maux de tête. Donc c'est vrai qu'il est très important de voir comment faire des réaménagements en son propre niveau, dans son style de vie, mais effectivement, c'est bien établi que les modifications de température que l'on peut observer dans certains pays africains où on passe d'une température humide à une forte chaleur peut être responsable de ces crises de migraine-là.
Et en complément, il y a une question Facebook d'une autre auditrice, elle est à Nouakchott, c'est Mam, et elle demande, en Afrique, on nous dit que c'est la fraîcheur, là, à l'inverse, la fraîcheur qui causerait la migraine. Est-ce que c'est vrai, professeur Cissé?
Bon, je pense que cela mérite d'être étudié. Bon, on n'a pas de données, on n'a pas d'études particulières là-dessus. Mais ce que l'on sait, c'est surtout la chaleur avec les modifications brutales. Mais bon, je pense qu'avec Mapouré, peut-être qu'on pourrait voir et évaluer cela.
Mathieu, tout à l'heure, vous parliez de vos allergies. Vous souffrez également d'allergies, c'est ça?
Oui.
Et est-ce qu'on a fait un lien justement entre ces allergies et vos migraines ou pas du tout?
Quand j'étais à Dakar, on traitait les allergies et les migraines en même temps. Et quand je suis venue à Kaolack, j'ai vu que les allergies avaient carrément diminué. Je n'étais pas tout le temps enrhumée, mais par contre, les migraines sont devenues fréquentes.
Professeur Yacouba Mapouré, sur cette présence en même temps chez cette auditrice, Mathie, d'allergies et de migraines, il arrive aussi qu'en consultation, vous trouviez des patients qui présentent ces deux maladies différentes?
Effectivement, ça revient à ce que j'ai souligné tantôt en disant que le piège dans cette migraine, c'est d'assimiler tout ce qui est mal de crâne à la migraine. Pourtant, on peut bien avoir les choses dans les diagnostics différentiels, c'est-à-dire les autres causes de céphalée, dont de la douleur de la tête figure en bon lieu les causes ORL, telles que la sinusite par exemple, etc. Donc du coup, chez le même patient peut coexister à la fois la migraine, mais aussi une cause ORL de douleur de l'extrémité céphalique. Et c'est là où, bien évidemment, la prise en charge médicale devrait être rigoureuse pour pouvoir détecter les deux et proposer des solutions médicales ou thérapeutiques appropriées aux patients.
En tout cas, on vous remercie infiniment, hein, Mathie, pour votre témoignage et vos questions. Excellente journée à Kaolack. Professeur Faudé-Cissé, on a parlé des facteurs déclenchants. Là, on a bien compris avec les questions de température. C'est très important avec les différents témoignages. Est-ce que ça veut dire que dans la vie quotidienne, on peut prendre des mesures, prendre des décisions, changer des choses pour se débarrasser de ces habitudes qui peuvent provoquer les crises et des crises très intenses?
Oui, naturellement. C'est d'ailleurs très conseillé. Parce que dans les facteurs déclenchants des migraines, il y a une panoplie. Hein. Il y a les odeurs, comme décrivait Mathilde tout à l'heure. Les odeurs, le tabac, le parfum, le café, voilà, peuvent être des facteurs déclenchants. Il est même rapporté que certains fast-foods, quand on les consomme, peuvent déclencher ces migraines-là. Parfois, c'est quand on boit beaucoup d'eau fraîche, cela peut déclencher ces maux de tête. Donc, c'est très important de faire ces réaménagements. Il y a aussi quelque chose dont on devrait parler, ce sont les facteurs psychologiques. Mmh. Le stress, la contrariété sont des causes très très fréquentes et cela est rapporté dans les pays développés surtout. Les patients migraineux ont plus de migraines durant les week-ends alors qu'en semaine, ils ont moins de migraines. Donc cela est expliqué par les changements de pression observés entre la semaine de travail et durant le week-end avec un peu de solitude, un peu d'anxiété. Donc on a plus de crise durant le week-end. Donc ces réaménagements-là sont très importants. Nous avons parlé des questions alimentaires aussi, hein, la consommation d'alcool, de vin, la consommation de chocolat, de certaines charcuteries peuvent être à la base de ça, les troubles du rythme, du sommeil, peuvent aussi être responsables de cela. Donc il est très important que le patient fasse un inventaire de ces facteurs déclenchants et que l'on propose ensemble, de manière concertée, des mesures pour éviter ces facteurs déclenchants.
Alors, on comprend qu'il y a les facteurs en amont. Professeur Yacouba Mapouri, il peut y avoir aussi, à l'inverse, trop de migraines et une véritable souffrance qui peut aller vers une souffrance psychique et y compris des manifestations de dépression.
Bien évidemment, chez les patients souffrant de migraines, la première chose qu'on doit redouter, c'est le passage à la chronicité, parce que le patient qui fait les crises de migraine, elle est aiguë, donc c'est une histoire qui dure quelques heures, voire quelques jours, voire une semaine, mais il arrive souvent que chez le même patient, cette douleur devienne tellement récurrente au point où il va se mettre dans un système de consommation de médicaments antalgiques, c'est-à-dire des médicaments antidouleurs pour soulager ses maux de tête. Et malheureusement, ces médicaments qu'il va prendre de façon répétée, de façon abusive, va être à l'origine encore d'une autre forme de mal de tête. Et le patient se retrouve dans un cercle vicieux et développe ce qu'on appelle céphalée chronique quotidienne. C'est-à-dire chaque jour, le patient a presque de la douleur dans la tête, sa migraine. Et donc du coup, dans ce contexte, c'est là où le patient souvent va mal, ne croit pas souvent au traitement peut-être qu'il a eu à prendre. Et du coup, peut se lancer facilement
dans les solutions alternatives. Vous avez évoqué tout à l'heure les tradis praticiens. Mm-hmm. Et ici au Cameroun, il y a une autre nouveauté, c'est surtout les pasteurs des églises réveillées qui sont également consultés par ces patients. Et souvent ces patients, la qualité de vie devient tellement médiocre qu'ils sombrent dans la dépression. Mm-hmm. Et si la prise en charge ne tient pas compte de ça, on risque de ne pas soulager ces patients.
Et on va reparler justement de la dimension prise en charge des crises au long cours, de la chronicité et puis prise en charge aiguë de ces crises. Mais si on va vous retrouver dans quelques instants, on va marquer une petite pause musicale avec Santi Gold, Desperate Youth. Et on se retrouve juste après avec bien sûr d'autres questions d'auditeurs. C'était Santi Gold, Priorité Santé. Nous continuons de parler de la migraine, de répondre à vos questions, toujours en compagnie de nos deux invités, deux neurologues au Cameroun, le professeur Yacouba Mapouré, chef de service de médecine interne, chef de l'unité de neurologie à l'hôpital général de Douala, et en Guinée, le professeur Fodé Cissé, chef de service de neurologie de l'hôpital national Ignace Dine à Conakry. Et on retourne au Sénégal, puisqu'on va rejoindre une autre auditrice à Dakar. En ligne, c'est vous, Ami, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour aux auditeurs.
Eh bien, alors, également pour parler de vos migraines, on commence toujours par un petit historique. Depuis combien de temps est-ce que ça dure pour vous, Ami, ces forts maux de tête, ces migraines?
Ça fait plus de 5 ans. Mm-hmm. Plus de 5 ans, je souffre avec des migraines. J'ai tout fait, j'ai fait des examens, des IRM, des scanners.
On vous entend mal, Ami. Vous dites que vous souffrez depuis 5 ans de ces migraines. Vous avez fait des examens de vue. On essaye de voir si on arrive à vous entendre. Ami, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Ah, c'est mieux. Est-ce que vous prenez un traitement aujourd'hui contre ces migraines?
Oui, je prends des traitements. Je prends des médicaments comme migrétine, la doliprane. Mm-hmm. À chaque fois. C'est ça que je prends deux cachets. Parce que j'ai des douleurs intenses.
Vous prenez ce médicament au long cours ou vous le prenez quand vous avez une crise?
Maintenant, au début, c'était quand j'avais des crises. Mais maintenant, j'ai des douleurs atroces à l'ongle de la journée. Mm-hmm. Et c'était, je suis obligée de prendre 2 cachets par jour pour calmer mes douleurs.
Et qui vous a prescrit ce médicament? Vous êtes prise en charge par qui, Ami?
Par un neurologue et à l'hôpital Fan.
D'accord, à l'hôpital Fan de Dakar. Est-ce que vous avez identifié s'il existe des choses, des facteurs qui aggravent vos crises et votre douleur?
Peut-être le soleil.
Le soleil.
C'est chaud. Aussi la musique, quand j'entends une forte musique.
Le bruit.
Mmh. Oui, le bruit, ça augmente les crises.
Et est-ce que des fois, vous êtes obligé d'arrêter certaines activités justement parce que vous avez trop mal et qu'il faut vous isoler?
Oui, j'avais commencé à travailler dans une entreprise, mais j'ai arrêté. Je ne pouvais pas continuer.
Ah
ouais, parce qu'à chaque fois, carrément. Je tombe malade. Mmh. Ouais.
Mmh. Alors, pour les questions que vous souhaitez poser à nos invités, aux médecins qui sont avec nous, les spécialistes de la migraine, Ami, qu'est-ce que vous souhaitez leur demander?
La consommation. Je consomme trop de médicaments. Mmh. Ça me donne d'autres maladies.
Vous disiez deux cachets de Migretil. Vous prenez quoi d'autre comme médicament?
Je prends aussi la Doliprane.
Doliprane?
Ouais.
Tous les jours?
Tous les jours, au matin et au coucher.
Et vous avez des craintes que tous ces médicaments, au long cours, ce soit mauvais pour votre santé, c'est ça?
Oui, c'est ça ma question.
Professeur Yacouba Mapouré, cette question d'ami justement sur cette prise de médicaments, est-ce qu'il y a des dangers, certains risques?
Non, il y a bien des risques à consommer ces médicaments antidouleurs dans le cadre de la migraine. La première chose, c'est le risque de toxicité. Lorsqu'on voit ces médicaments que Ami prend régulièrement, le Migretil, c'est l'association de ce que nous appelons ergotamine, qui est un dérivé ergoté. C'est un médicament qui était indiqué dans le traitement de la migraine, mais qui aujourd'hui n'est plus recommandé à cause des effets secondaires. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. De même, le Doliprane, qui est du paracétamol, mm-hmm. également consommé à des doses importantes, expose à des complications. Ça peut être une hépatite médicamenteuse et cela. Ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire au niveau de la toxicité. Mais plus encore, le second impact de la prise régulière soutenue des médicaments contre antidouleur contre la migraine. Lorsqu'on prend par exemple du Doliprane ou bien du paracétamol plus de 15 jours sur 30 par mois, et ceci pendant plus de 3 mois, on va développer ce qu'on appelle une céphalée avec abus médicamenteux. C'est-à-dire, en dehors de la migraine, qu'est-ce que ces médicaments font? Ils vont inhiber un système antidouleur qui existe naturellement dans l'organisme et qui nous permet souvent de ne pas avoir recours aux médicaments pour soulager nos douleurs. Du fait de les prendre de façon régulière, donc ça inhibe ce système et du coup, à la moindre occasion, le patient a tendance à consommer à consommer ces médicaments. Et on est arrivé à des situations où j'ai eu des responsables, par exemple, qui prenaient même des médicaments en se disant que peut-être à midi, j'ai réunion avec mon équipe, la douleur là va revenir. Dans cette sorte d'anticipation et qui ne va que compliquer les choses.
Professeur Mapouré, excusez-moi de vous interrompre parce que là on a dit que en fait l'ordonnance d'Ami n'était pas forcément la bonne. Ça veut dire quoi? Il faut qu'elle retourne voir un neurologue et qu'il envisage avec elle une autre prise en charge, des choses différentes?
Absolument. Absolument, surtout à Dakar et dans le service d'ailleurs où elle a été prise en charge, qui est le service où j'ai également, je suis passé, j'ai été formé d'ailleurs. J'en profite pour dire coucou aux Dakarois et à mes maîtres de Dakar, pour dire qu'il faut, oui, on devrait revoir son traitement déjà pour faire le sevrage à tous ces médicaments qu'elle prenait et lui proposer d'autres choses.
Ça veut dire qu'il y a des possibilités. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui disent « je souffre » et on entend ce mot que dit Ami, des douleurs atroces. Elle prend des médicaments, elle souffre, elle a besoin d'être aidée. C'est très important de retourner en consultation pour que quelqu'un puisse l'aider.
Absolument, absolument.
Alors, au niveau du quotidien, professeur Yacouba Mapouré, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient l'aider, on va dire? Tout à l'heure, on parlait de l'hygiène de vie dans les habitudes. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas des médicaments qui peuvent permettre aussi d'aller mieux?
Bien évidemment. Le professeur Cissé Abbas a souligné un ensemble des facteurs favorisant des facteurs qui peuvent contribuer au déclenchement des crises de migraine. Je prends des exemples, la consommation d'alcool, certains aliments, certaines charcuteries, les odeurs, etc. Ça peut contribuer à réduire la souffrance du patient. Donc ça, c'est déjà important. Le repos est capital, ça, il faut bien le souligner. Parce que si on évolue dans une ambiance bruyante, dans une ambiance ensoleillée, je connais bien Dakar, où il y a beaucoup de soleil, il faudrait un peu se retirer, se reposer pour pouvoir un peu donner de la chance au système qui entretient la douleur au niveau de la tête, de pouvoir un peu baisser le seuil de douleur
au niveau de la tête.
Alors, avoir accès justement à ces traitements efficaces, comme vous venez de l'évoquer, professeur Faudé-Cissé, je me tourne vers vous. C'est important, quand justement des choses n'ont pas fonctionné, de pouvoir essayer autre chose. Le problème, c'est peut-être la disponibilité. On sait que dans certaines régions, et même dans certaines capitales, eh bien, on n'a pas forcément tous les médicaments sous la main. C'est le cas en particulier en Guinée, professeur Cissé.
Oui, naturellement. Je vous remercie pour la question parce que ça entre en droite ligne de notre quotidien. Comme le disait Mapouré tout à l'heure, certains médicaments qui aujourd'hui ne sont plus donnés à l'échelle mondiale sont donnés en Afrique compte tenu de l'inaccessibilité au traitement de nouvelles générations. Mmh. Donc, le schéma thérapeutique de la migraine est connu. Il y a le traitement des crises et il y a le traitement de fond. Mmh. Pour les traitements des crises, bon, certains médicaments de base, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont disponibles, mais là aussi, souvent dans la capitale. Et quand on habite dans les régions reculées de nos pays, bah, ces patients n'ont aucun autre recours que la médecine traditionnelle. Et lorsqu'on veut parler de certains traitements vraiment très nouveaux, qui ont fait leurs preuves sur le plan scientifique et qui permettent aux gens d'avoir une qualité de vie, nous parlions tout à l'heure de la dépression, nous parlons tout à l'heure du handicap social, nous parlons tout à l'heure du handicap économique, hein, comme la jeune dame qui a dû quitter son emploi dans un contexte où il n'y a pas forcément de filet de sécurité. Donc ça devient un peu compliqué, donc les gens perdent leur emploi, ils ont une qualité de vie qui n'est pas du tout souhaitable et ça finit dans la dépression parce que tout simplement, les médicaments aujourd'hui accessibles ne sont pas disponibles pour le traitement des crises. Maintenant, pour le traitement de fond, certains médicaments anciens sont disponibles et donc on les donne aux patients en fonction de l'intensité et de la fréquence de ces crises pour leur permettre d'avoir une qualité de vie et une certaine autonomie de vie souhaitable.
Mais en même temps, il y a une double problématique, avoir les médicaments dans la pharmacie, mais peut-être surtout avoir les moyens de les acheter.
Naturellement, donc dans un pays comme la Guinée, il faut noter que le taux de couverture sanitaire, c'est pas un secret, inférieur à 5%. Mmh. Donc vous avez 95% de la population, parfois des professionnels de la santé, qui n'ont pas d'assurance maladie, donc qui doivent acheter au comptant. Et donc quand c'est comme ça, ça devient très très compliqué pour des maladies chroniques. Pour les pathologies aiguës, c'est tout ça, mais pour les maladies chroniques comme la migraine, mmh. donc ça devient insupportable sur le plan financier. Et donc on se tourne vers ce que le professeur Mapouré appelait des solutions alternatives. Mmh. Hein, donc il y a tout, il y a à manger et à boire. Donc ça peut être la médecine traditionnelle, ça peut être les pasteurs, ça peut être les prières, ça peut être parfois des cérémonies assez, assez impressionnantes. Donc c'est pas souhaitable en 2020 que pour une pathologie aussi connue depuis l'Antiquité comme la migraine, de la prise en charge se fasse de cette manière.
Alors on va prendre un autre auditeur. On part pour le Congo-Brazzaville sans plus tarder pour retrouver Franchely. Franchely, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors expliquez-nous de quoi vous souffrez.
Voilà, comme je me disais au commentaire, c'est depuis le bas âge, depuis l'école primaire, que j'ai commencé à sentir les migraines. Arrivé au collège, au lycée, jusqu'à l'université, c'était presque tous les jours que je sentais des migraines, des violents maux de tête. Alors, quand j'ai commencé à travailler, mes collègues de travail m'ont conseillé d'aller voir un ophtalmologue, mm-hmm. puisque parmi nous, il y a un collègue qui avait commencé à sentir des migraines. Il est allé vite chez l'ophtalmologue. Mm-hmm. On l'a prescrit l'ordonnance, il a acheté, il a suivi son traitement, mais il se porte bien, il porte aussi des lunettes. Mm-hmm. Maintenant, c'est lui qui m'a conseillé d'aller voir l'ophtalmologue. Mm-hmm. Je suis allé voir l'ophtalmologue le 3 avril de cette année. L'ophtalmologue a fait un examen, il a prescrit l'ordonnance, il m'a donné deux sortes de colliers mm-hmm. Que j'ai pris pendant 15 jours. Et à la fin du traitement, je suis allé le voir pour la visite. Voilà, il m'a dit qu'il y a une nette amélioration, mais depuis lors, je sens plus les migraines comme avant.
Vous souffrez beaucoup moins. Vous souffrez beaucoup moins.
Beaucoup moins, ouais. Or, auparavant, c'était au moins 2 jours sur 1. Mais là, je peux faire au moins 5 jours, une semaine sans sentir des migraines.
Les crises se sont beaucoup espacées. Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités,
Franchely? Voilà. Mm-hmm. Ma question est celle de savoir, puisque il y a aussi mes deux grandes sœurs qui en souffrent. Mm-hmm. Voilà, ma question est de savoir, est-ce que c'est un problème de vie qui cause des migraines?
ou bien c'est peut-être le milieu de vie, le mode de vie que nous menons en Afrique, plus particulièrement au Congo-Brazzaville, où il y a la lumière, on est exposé à beaucoup de choses, qui peut être la cause des migraines. Si c'est ça, quelle sera donc la mesure à prendre pour éviter tout cela ?
On ne va pas vous dire de rester dans le noir, hein, ça ne va pas marcher du tout. Vous parliez de vos deux sœurs qui ont des migraines, ça veut dire que vous avez peut-être aussi une interrogation par rapport à une forme d'hérédité ?
Oui.
Par rapport à une forme d'hérédité. Voilà. Professeur Faudé-Cissé, est-ce qu'il y a des familles de migraineux ?
Oui, oui, les facteurs génétiques, hein, dans la physiopathologie, comme on dit en médecine, dans l'explication des mécanismes de la migraine, les facteurs génétiques sont les premiers. On sait que voilà, les facteurs génétiques jouent un rôle prépondérant dans la survenue de la migraine. Et en plus des facteurs génétiques, il y a les facteurs environnementaux. Alors quand il parle de style de vie, on a besoin de plus de précision, mais comme on l'a déjà dit, Makoura et moi, les odeurs peuvent être à la base, la consommation de certains types d'aliments, que ce soit des charcuteries, du chocolat, la consommation de vin. Donc il y a d'autres facteurs, hein, les facteurs psychologiques. Nous savons qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes, surtout en période de pandémie comme ça. L'anxiété, la dépression, le stress peuvent être des facteurs environnementaux qui peuvent être déclencheurs. Hein, dans les critères diagnostiques, parfois, même les mouvements peuvent aggraver. Donc, on pourrait parler tantôt du repos. Donc, voilà. Donc, il est très important de faire un inventaire de ce que l'on fait et de faire le lien entre cet événement et la survenue de migraines. Mais pour répondre de manière pratico-pratique à la question, oui, il y a des facteurs génétiques bien identifiés qui prédisposent certaines familles, certaines personnes à faire de la migraine.
Professeur Yacouba Mapouré-Franchely, dans son témoignage, dit que ça a commencé très très jeune. Ça veut dire que même des enfants peuvent être concernés ?
Effectivement. La migraine peut également démarrer dans la petite enfance. Et là, les manifestations ne sont pas exactement les mêmes que chez l'adulte. Et la difficulté dans ce cas, c'est que l'enfant n'arrive pas à exprimer tout ce qu'il ressent lorsqu'il vient en consultation. Et c'est souvent cet enfant qui continue à pleurer, à avoir très mal à la tête. Et la note particulière chez l'enfant, c'est les troubles digestifs qui sont au premier plan, contrairement à l'adulte. Il va beaucoup vomir, il va se plaindre de douleurs abdominales, pour lesquelles les collègues pédiatres vont souvent mettre plusieurs traitements. Parfois, on est arrivé à faire même des fibroscopies à des enfants, pensant que c'était une maladie du tube digestif. Et voilà, ce n'était pas cela. Et effectivement, à Brazzaville, notre collègue, ensemble avec professeur Cissé, c'est le professeur Osumaker, on en a fait une publication dessus, où on s'est rendu compte qu'il y avait cette pathologie migraineuse en milieu pédiatrique, et on appelle ça migraine abdominale, dont l'expression clinique est assez différente. Ça existe bien, et lorsque l'enfant grandira, deviendra adolescent, alors à ce moment, la sémiologie, c'est-à-dire les signes de sa migraine, vont se transformer et devenir exactement ce que nous connaissons de cette pathologie.
En tout cas, on remercie Franchely pour son témoignage. Professeur Mapouré, il y a un paradoxe avec la migraine, c'est que ça fatigue et en même temps, ça perturbe le sommeil.
Effectivement. Effectivement, puisque lorsqu'on va voir revenir sur les mécanismes qui président au déclenchement même de la crise de migraine, on se rend compte que c'est un dysfonctionnement au niveau des neurones, c'est-à-dire la cellule du cerveau, et qui va commencer souvent par la région postérieure du cerveau, c'est-à-dire derrière la tête, et qui migre progressivement, et qui va aussi interpeller certaines zones de l'organisme, notamment l'hypothalamus, qui a un rôle prépondérant dans le sommeil, etc. Et on peut bien comprendre pourquoi ces symptômes-là peuvent exister au cours de la migraine.
Et c'est vrai que c'est des fois très énervant quand un médecin vous dit « reposez-vous », alors que précisément le problème, eh bien, c'est l'insomnie. On aborde la dernière partie de notre échange. On va peut-être insister encore sur l'importance de la notion de traitement de fond. Professeur Faudé-Cissé, pourquoi est-ce que dans certains cas, les médecins recourent-ils à des antidépresseurs et des antiépileptiques pour prendre en charge la migraine ?
Alors, pourquoi est-ce qu'on recourt à cela ? Parce que pour ce qui est des antiépileptiques, si on revient aux mécanismes qui sont en cause dans la survenue de la migraine, on parle d'une hyperexcitabilité tout à l'heure des neurones. Donc, ces médicaments antiépileptiques ont une tendance à stabiliser la membrane des neurones, donc ça contribue à stabiliser les neurones, donc à stabiliser ces maux de tête-là. Il en va de même pour les antidépresseurs. Hein, les antidépresseurs de type, il y a différents types, je pense que c'est pas la peine de les aborder là, mais ils permettent d'améliorer la transmission entre les neurones. Mm-hmm. Ils nous amènent les patients à se sentir un peu mieux pour ne pas compliquer le débat. Et donc, ils ont un impact sur la qualité de vie, mais aussi sur la qualité du sommeil. Donc, cela permet, on parlait tout à l'heure du repos, donc lorsque vous prenez un antidépresseur, vous vous sentez mieux, vous dormez plus facilement, et donc cela permet de réduire la récurrence des crises. Parce que l'objectif étant de réduire la récurrence des crises. Si les crises deviennent très très fréquentes, elles deviennent handicapantes sur le plan social, mais tantôt on le disait, elles deviennent handicapantes sur le plan économique. Donc chez les migraineux avec une certaine sévérité, il est très important de réduire la fréquence de ces crises et de leur permettre d'avoir une qualité de vie. Donc c'est pour ça que les antiépileptiques pour stabiliser la membrane neuronale et faciliter le sommeil sont donnés, ainsi que les antidépresseurs.
Professeur Yacouba Mapouré, tout à l'heure on parlait du paradoxe de la fatigue quand on n'arrive pas à trouver le sommeil. Il y en a un autre, c'est qu'on a bien compris l'intensité de la douleur, la souffrance réelle, et pourtant, certains patients migraineux n'osent pas en parler parce qu'ils ont l'impression de ne pas être pris au sérieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez? D'ailleurs, on disait tout à l'heure les femmes beaucoup plus concernées, même une forme de misogynie, disant que les femmes pour un oui, pour un non, disent, c'est dans le langage courant en France par exemple, qu'elles ont la migraine, c'est un petit peu un prétexte pour échapper à certaines obligations, on va dire.
Ouais, mais la situation que nous rencontrons fréquemment en clinique, c'est que lorsqu'on est neurologue, je crois que ça doit être la même situation en Guinée, au Sénégal, au Congo, etc., c'est que la plupart des patients qui arrivent chez le neurologue pour avoir mal à la tête, réellement, ils ont mal à la tête. Mm-hmm. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas exclu qu'on soit migraineuse. Et on est aussi une autre forme de mal de tête. Mmh. Et souvent, ces femmes ou bien ces dames qui ont d'autres problèmes sociaux, d'autres problèmes familiaux, voire professionnels, qui n'arrivent pas à bien gérer et qui va générer encore d'autres douleurs qui viendront s'ajouter ou bien contribuer au déclenchement de cette migraine. Mmh. Et là, c'est l'interrogatoire, comme je dis, c'est écouter le patient, bien interroger, qu'on va bien cerner, voir les limites entre les deux cadres, c'est-à-dire la migraine et un autre cadre de céphalée.
Et même si c'est pas facile de résoudre toutes ces douleurs, professeur Faudé-Cissé, ce sera le mot de la fin. On insiste sur ce point en conclusion. Il ne faut pas rester à supporter sa migraine.
Non, pas du tout. Hein. La science évolue, de nouveaux traitements et qui marchent très bien sont disponibles. Il ne faut pas tomber dans le désespoir parce que ça ne va pas améliorer les choses. Ça va amener la dépression et, comme on dit en médecine, d'autres comorbidités. Ça va vous stresser. Et le stress aujourd'hui est à la base de beaucoup d'affections. Donc, quand il y a des maux de tête, il faut consulter un neurologue, de préférence un neurologue spécialisé dans les céphalées, pour identifier le type de céphalée, parce que la classification internationale des céphalées fait état de près de 240 causes de céphalées, donc c'est très important d'identifier le type de céphalée, surtout s'il s'agit de la migraine, et de planifier de manière rigoureuse et de manière très coordonnée, c'est prise en charge.
La prise en charge, c'est essentiel au long cours. On vous remercie tous les deux. Hein. On vous remercie professeur Faudé-Cissé en ligne de Conakry, professeur Yacouba Mapouré en ligne de Douala au Cameroun. Merci de nous avoir donné de votre temps. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout. Samaké Omfeli Lassen, Didier Bleu, Raphaël Lazizi. Demain, nous allons parler de la santé du foie, hépatite, fibrose, cirrhose, la NASH, stéatose hépatique caractérisée par l'accumulation de graisse dans les cellules du foie. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.